Bonjour, je suis Camille et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast La Voix des Invisibles. Ici, on parle de ceux que l'on n'entend pas. Ici, on met en mots des parcours de travailleurs sociaux. Et ici, en toute simplicité, je leur donne la parole pour qu'ils puissent se raconter, nous raconter, par où ils ont commencé, par quoi ils sont passés, leur quotidien de travail, là ou les situations marquantes qu'ils ont accompagnées, le ou les publics pour qui leur engagement est plus fort, parce que oui, on a tous nos préférences. Qu'est-ce qu'ils retiennent de toutes ces rencontres humaines, leur avis sur le travail social d'hier et celui d'aujourd'hui, et bien plus encore. J'espère que vous trouverez ces parcours aussi inspirants et enrichissants que moi. Belle écoute à vous. Amélie, elle fait le choix, une fois le diplôme d'assistante sociale en poche, de poursuivre en licence sciences de l'éducation, puis en master médiation pour grandir encore. Elle se forme et n'a qu'une hâte, retourner sur le terrain et exercer enfin en tant que travailleuse sociale. Elle met en avant dans son témoignage la nécessité pour elle de déborder et d'être engagée pour accueillir correctement, accompagner au plus juste en fonction des besoins et du bon moment pour la personne. Dans cet épisode, on fait un focus sur les programmes de réinstallation des réfugiés et la paire aidance. Merci à elle pour ce récit empreint de bienveillance, respect et d'humanité. Belle écoute à vous. Bonjour Amélie.
Bonjour Camille.
Bienvenue sur La Voix des Invisibles. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vais te demander de te présenter, de nous dire ton prénom, du coup, je viens de le dire, ton âge et de quelle formation initiale es-tu ?
J'ai 28 ans et je suis assistante de service social depuis 2015.
D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'œuvrer dans le social ?
Alors, c'est venu assez naturellement au lycée. Je me souviens pas précisément à quel moment j'ai eu cette idée, mais voilà, c'est apparu comme une évidence autour de 16-17 ans.
Qu'est-ce que tu fais comme choix, du coup, après le lycée ?
Alors, l'année du bac, j'essaie déjà de passer les concours pour rentrer à l'IRTES, mais c'est un échec. Donc, je postule en fait en fac de psycho.
Ok.
Donc, je commence comme c'est une année de fac de psycho, tout en sachant que c'est pas vers ça que je vais me tourner. Je veux pas aller au bout, mais ça me permettait de commencer à entrer un peu dans le domaine. Et ça me laissait aussi du temps pour faire du bénévolat à côté. Donc, c'était une bonne transition.
Ok, faire mûrir un peu ton projet et puis arriver un peu plus armé pour le concours.
Pour le concours, exactement. Et donc, du coup, j'ai repassé les concours à la fin de l'année de faculté, enfin de la première année. Donc, je les ai eus, heureusement, parce que c'était la seule option.
T'avais pas envie de continuer
non.
La fac. Ok. Pour les 3 ans d'IRTES qu'on a partagés, on ne va pas le cacher. Je connais pas mal de choses de comment tu as traversé ces 3 ans, mais je vais te demander de nous raconter un peu pour toi les moments importants, les rencontres qui ont fait sens et les temps forts en fait, de tes 3 ans.
C'est 3 ans riches, 3 années vraiment riches parce qu'on rencontre nombre de personnes, des camarades, des copains de promo. C'est hyper important parce que on se retrouve, on alterne stages, cours et de se retrouver. Enfin, c'est vraiment important, ça nous permet d'échanger, de débriefer. On rencontre aussi un grand nombre de professionnels de champs complètement différents. Et c'est vraiment chouette parce que c'est toute la richesse de notre travail, c'est de pouvoir œuvrer dans des domaines complètement différents et de redécouvrir un peu le métier qu'on fait à chaque fois. Donc ça a vraiment été pour moi hyper hyper intéressant parce que suivant le domaine, suivant le public, et on réinvente un petit peu le travail à chaque fois. Les stages qui sont vraiment qui permettent de confirmer le choix professionnel et c'est le concret, ça nous permet de commencer à mettre un pied en fait dans le travail et c'est vraiment des moments riches parce qu'on apprend, on découvre, on est souvent aux côtés de professionnels qui nous impressionnent un peu parce que nous on est encore des bébés du travail social, on a tout à apprendre et c'est vrai que c'est des moments hyper intéressants parce que Moi, j'ai eu la chance pendant les stages d'être encadrée à chaque fois par plusieurs professionnels. Donc, ça multiplie un petit peu les façons de faire, les approches, les questionnements. Donc, c'est des moments qui sont hyper, hyper intenses et qui permettent de commencer à se construire pour la suite.
Dans quoi t'as fait tes stages?
Alors, j'ai fait mon stage de première année dans un service qui gère l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie.
Ok.
Donc, c'était voilà, au conseil départemental. C'est pas un stage que j'avais choisi à proprement parler, c'était un stage de première année, mais j'étais ravie parce que c'est pas un public vers lequel je me serais tournée spontanément. Et ça a permis voilà, d'apprendre à le connaître. C'était beaucoup de visites à domicile et on découvre plein de jolies facettes du travail, du public, des approches. Et voilà, c'était super, un super stage. En deuxième année, j'étais dans un CCAS. Donc là, avec un public plutôt marginalisé, qui avec des problématiques d'addiction, accompagné au RSA beaucoup. Donc là, c'était un stage où j'étais. Alors, il y avait une petite partie accompagnement des bénéficiaires en individuel et puis des projets collectifs aussi. Voilà, on a travaillé sur la fin de vie des personnes précaires, enfin voilà, des personnes isolées. Indigente, comment accompagner jusqu'à la mort à ce moment-là. Et puis d'autres projets collectifs voilà, sur la gestion des énergies, voilà, des choses qu'on voit un peu plus souvent. Mon stage de troisième année, c'était de nouveau dans un conseil départemental, mais un autre dans un service d'aide sociale à l'enfance. Où là, on accompagnait du coup des enfants qui étaient placés sur décision de la justice. Bah, le travail était bah, d'accompagner ces enfants, de permettre, enfin, de recréer ou de maintenir le lien entre les parents et les enfants à travers des visites médiatisées, encadrées. Donc c'était voilà un stage qui m'a beaucoup intéressée parce que. Par rapport au stage de deuxième année où il y avait parfois souvent tout l'aspect financier et administratif qui revenait dans les accompagnements et qui pouvait être un peu parfois pour les gens le leitmotiv un peu de la rencontre. Là, on est vraiment sur une dimension enfin, d'accompagnement. On est voilà dans la parole, dans la médiation. Voilà, ce stage a été un
Toi, tu te
peu
retrouves du coup.
ouais carrément ouais. C'était un peu une révélation dans ce sens-là parce que c'est vraiment ce que je venais chercher aussi dans ce travail.
Ok. Est-ce qu'il y a des rencontres dont tu te souviens pendant ces trois stages, des rencontres un peu marquantes avec des personnes que tu accompagnes, des professionnels peut-être, ou des intervenants de formation, des, je sais pas.
Oui, bah il y a un équilibre qui se crée, voilà, avec plein de rencontres. Ben, comme je disais tout à l'heure, au sein de la promo, voilà, c'est des rencontres, des amitiés qui aident à se construire aussi en tant que professionnel, parce qu'on n'a aucune crainte pour échanger, pour débriefer, pour voilà, se livrer. Donc c'est hyper important parce que ça aide. Voilà, il y a le plan perso aussi qui rentre en compte. C'est sûr des formateurs aussi sur les terrains de stage parce que on s'identifie, on projette beaucoup quel professionnel on veut être et voilà on voit des enfin en troisième année encore plus parce que du coup avec les années de formation on prend du recul et on prend confiance en maturité et puis on est vraiment la dernière année de formation. Sur quel professionnel je veux être, bientôt
C'est
c'est
vrai.
mon tour. Et c'est vrai que de rencontrer, enfin, j'ai rencontré des professionnels, oui, enfin, que j'ai vraiment admirés, qui m'ont impressionné de par leur professionnalisme, leur façon de faire leur travail, d'aimer le travail qu'ils faisaient. Et ouais, c'est un côté un peu impressionnant parce qu'on se dit, est-ce que je vais être capable de faire ça? Mais c'est vraiment hyper intéressant, quoi.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que des fois, on rencontre des professionnels, on se dit waouh.
Quand
Ok,
même.
j'ai encore du chemin à faire. D'accord. Donc, à sortie de tes 3 ans de formation, qu'est-ce que tu décides de faire?
Alors, je décide de pas rentrer tout de suite dans la vie active et de poursuivre sur enfin, une licence 3 puis un master. Voilà, j'avais envie de m'ouvrir d'autres portes à plus long terme. Et voilà, j'avais envie de grandir encore un petit peu. Donc, je choisis ouais, de faire une troisième année de licence en sciences de l'éducation et d'enchaîner du coup sur un master dans le même champ, sciences de l'éducation, mais plus orienté sur le travail social, la médiation, le travail avec les jeunes.
On retrouve du coup l'aspect
C'est
médiation
ça.
de ton stage 3,
Ouais,
c'est ça?
c'est
C'est
ça.
ça qui oriente un peu ton choix?
Ouais. C'est complètement enfin, ce qui m'a attirée en fait dans ce master, c'est de développer cette partie qui est pour moi enfin, la base du travail que j'ai voulu faire en tant qu'assistante sociale. Donc voilà, je m'engage dans ce master avec une première année à distance et une deuxième année en présentiel à la faculté de Lille.
Ta première année, tu dis elle est à distance, donc ça veut dire quoi? Par correspondance, tu
Oui,
peux nous en dire un peu plus?
effectivement, on a une plateforme en fait avec l'accès bah, au cours. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est qu'il y a vraiment une forme d'autonomie, qu'on construit un petit peu ce qu'on veut développer, ce qu'on veut connaître. Et c'est chouette parce que bon, ça reste dans un cadre voilà qui est donné par le master, c'est sûr, mais on construit notre savoir quoi, et c'est vraiment intéressant parce qu'on a beaucoup de marge de manœuvre pour travailler sur les sujets qu'on veut, de la façon dont on veut le faire. Et c'est intéressant.
Ok, donc c'est que des cours par correspondance, t'as pas d'intervention, pas d'intervenant, tu croises personne en fait cette année-là,
Ouais.
pas de stage non plus.
Non, non,
Ok,
non.
et tu le vis bien parce que du coup, alors t'as fait la licence 3, du coup t'as transité par la fac, donc effectivement il y a un nouveau mode à trouver d'apprentissage quand on est à la fac et quand on sort d'un institut de formation comme l'IRTES. Mais là, du coup, tu te sens pas trop isolé dans ce.
Non, ça va plutôt bien parce qu'on acquiert une méthodologie de travail quand même, effectivement, par l'IRTES, bah, par la faculté aussi où on doit être autonome. Et puis bon, il y a un moment où voilà, je choisis de le faire et du coup, je m'engage voilà, pour aller au bout. La difficulté, c'est de travailler tout seul, c'est qu'on ne peut jamais doser en fait la quantité de travail qu'on fournit par rapport à d'autres parce qu'on est isolé et puis parce qu'on communique un peu avec des personnes qui font à distance aussi, mais voilà, on se connaît pas physiquement sauf pour les moments où il y a les examens. Donc la difficulté c'était un peu de savoir en termes de quantité d'heures où fallait que je m'arrête parce que j'avais tendance à travailler 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 sans avoir de garde-fou un peu ou de point de
Ok,
comparaison.
qui te disent, ben
Qui
non,
me
moi
disent,
ça
allez, c'est
je.
bon, il faut arrêter maintenant.
Faut arrêter,
Mais
ok.
bon, voilà, à part ça, c'est plutôt une année sympa et ça me permet, étant donné que la faculté est à Lille et que c'est à 5 heures de route de chez moi, ça me permet de ne pas déménager
Oui,
cette
aussi,
année-là
effectivement.
et de rester.
Pendant cette année-là, tu travailles, il me semble.
Oui, je travaille à temps partiel, enfin à 80% en tant qu'assistant d'éducation.
Ok.
Pareil, c'est un choix de chercher, enfin de travailler dans ce secteur parce que je veux pas mettre en échec le master. Ma priorité, elle est là et du coup, je choisis ce travail parce qu'il me laisse pas mal de temps libre à côté et puis des facilités pour m'organiser entre le travail et le master.
D'accord. Et alors, Master 2, là, je crois que tu es obligé
Oui, pas le choix.
de partir.
Obligée de déménager. Ouais, pas simple parce que voilà, je commence à en avoir marre et que j'avais envie de me poser et de me lancer dans la vie active cette fois. Donc c'est l'année vraiment où j'ai hâte d'arriver au bout et de passer à autre chose. Mais bon, voilà, c'est 8-9 mois, une année scolaire, ça passe vite. Donc voilà, je termine le master en juillet. Et pendant cette année de master, je fais un stage du coup dans une association sur la région lilloise qui accompagne des familles de personnes qui sont sous emprise sectaire ou d'anciennes personnes qui étaient elles-mêmes sous emprise quand sont sorties et qui ont
Ok.
besoin d'un accompagnement. Donc c'est une association qui propose un accompagnement sur le plan social, sur le plan juridique et psychologique. Et voilà, enfin, hyper intéressant parce que L'avantage d'être dans des villes de cette taille, c'est que on a accès à un certain nombre de services qu'on connaît pas toujours quand on vient.
J'allais dire des assos de ce type-là, on n'en voit pas partout. En tout cas, peut-être que c'est une de mes méconnaissances, mais effectivement, c'est intéressant qu'il y ait ce genre d'assaut. Donc toi, c'est dans le cadre de ton master médiation. Tu peux nous dire un peu les profils que tu croises qui viennent dans ce genre d'assaut?
Ouais, alors c'est assez varié en fait. Bon, avant on parlait de secte, c'était un peu le mot phare parce que c'était des gros groupes qui revenaient souvent sur le devant de la scène et qui endoctrinaient des personnes. Et ça ça a vachement changé ce paysage et maintenant c'est beaucoup de petites associations ou de personnes toutes seules qui créent en fait des mouvements ou par le biais de pratiques un peu originales qui sont assez récentes en France qui encouragent les personnes à venir vers elles et petit à petit ça dérape vers des choses qui mettent en difficulté les personnes. Alors sur le plan financier, on a des personnes qui se retrouvent dépossédées de tout ce qu'elles ont, de leur maison, de leurs meubles. Sur le volet familial aussi, parce que dans ces groupes, on cherche à couper la personne de tous ses proches, de sa famille, de ses parents, de ses amis. Et puis voilà, c'est des personnes qui vivent un peu un lavage de cerveau et c'est assez impressionnant de voir les conséquences que ça peut avoir. Donc c'est l'association, elle accompagnait beaucoup de profils différents. Alors ça pouvait être à ce moment-là des jeunes qui avaient été endoctrinés par Daesh et qui étaient prêts à partir en Syrie, mais des jeunes qui avaient 13 ans, 14 ans.
Okay.
C'était fait dans le dos des parents un peu et puis un jour tout ça éclatait et puis c'est la famille qui était choquée de ce qui se passait, enfin qui avait pas du tout mesuré l'ampleur de l'événement.
Et du coup, c'est la famille qui sollicite l'association ou est-ce que il y a un truc judiciaire, un cadre judiciaire qui est proposé aussi?
Alors non, souvent c'est la famille qui proposait à l'enfant si c'était dans ce cas de figure le rendez-vous. Après c'était parfois on accompagnait des parents, on accompagnait des maris, des femmes, des enfants, enfin tous les cas de figure sont possibles. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que il y a beaucoup de dérives sectaires, il y en a partout, mais c'est quelque chose qui est très connu, enfin très peu connu, très tabou et on ne sait pas trop comment réagir en fait quand on y est confronté. Donc c'était hyper intéressant de découvrir ce secteur et de voir à quel point il était ancré en fait partout dans notre société. Et c'est un phénomène qu'on méconnaît fortement.
Ouais, je trouve aussi, je partage. Ok, et donc là, dans ce stage, tu les reçois, les personnes, ou c'est plus un stage où tu observes, tu découvres un milieu, ou est-ce que propose d'être active un petit peu auprès des personnes que vous recevez?
Oui, progressivement. Après, c'est un mode de fonctionnement où les personnes sont toujours reçues en binôme.
Ok.
Il n'y a pas de notion, on accompagne une personne, on la rencontre, il y a toujours cette idée de binôme. Et bon, ça reste un stage quand même relativement court sur l'accompagnement qui est proposé par l'association, qui peut durer plusieurs années. Donc la marge de manœuvre est quand même assez limitée.
Ok.
Mais en binôme, oui, on reçoit des personnes.
Ok, ça marche. Donc là, tu te retrouves un peu sur la position d'un travailleur social. Au final, tu retournes un peu au premier amour.
Oui, exactement, parce que effectivement, dans l'équipe de l'association, il y avait des travailleurs sociaux, entre autres, qui accompagnaient. Donc ça permet de faire le lien.
Ok. Donc, tu obtiens ce master médiation. Et ensuite, qu'est-ce que tu décides de faire?
Bah ensuite, je retourne dans mon, dans mon village rural,
natal.
C'est ça. Et en fait, pendant l'été, du coup, il y a mon terrain de stage de deuxième année qui me propose un poste de remplacement parce qu'ils ont un arrêt maladie. Donc à la base, ils me proposent un poste de remplacement jusqu'à la fin de l'été. Donc bon, je me dis, j'avais rien d'autre, donc j'y vais. En me disant, on verra ce que ça donne. Et puis,
oui, parce qu'au départ, un remplacement de un congé maladie, tu te dis, ok, c'est un,
oui.
c'est un peu précaire, mais bon,
c'est ça.
Allez, ça remet le pied à l'étrier.
C'est ça, ça permet voilà, de commencer. Et puis, en fait, bah, c'est des contrats du coup très précaires parce que c'est au mois, basé sur un arrêt maladie. Donc, je suis sur un poste d'accompagnement de personnes au RSA. Et bah c'est hyper intéressant parce que c'est un poste très polyvalent, donc pour un premier poste ça permet de toucher un petit peu à tout et voilà de se créer des familiarités avec les choses.
Tu te réactualises sur beaucoup de dispositifs qui existent. Non mais c'est vrai,
ouais,
c'est le genre de poste où du coup t'es expert un peu sur
bah ouais, tu touches un peu à tout, ouais.
Okay.
Donc, c'était une bonne façon ouais, de commencer.
Donc là, c'est ton premier poste. Quel est ton ressenti, du coup, parce que entre quand on sort de l'école sur les stages et puis quand on est vraiment en poste, où là,
c'est différent.
Tu sais, c'est vraiment ton bureau, c'est ton nom qui est écrit sur la petite porte,
c'est
si t'as la chance d'avoir un bureau à toi. Et comment tu ressens, toi, l'arrivée sur ce premier poste?
Une petite pression. Alors, le premier jour, voilà, tout excité, on découvre plein de choses, des collègues et tout, enfin, c'est super. Et puis, le deuxième jour, quand on voit la quantité de choses à savoir, à connaître, on se dit, mais pff, c'est impossible. Et donc, non, un peu de pression au début parce que, en plus, j'arrive sur un poste où la personne est en arrêt maladie depuis plusieurs mois, où il y a plusieurs personnes qui ont tourné sur ce poste. Sur des temps très courts. Donc, il y a vraiment la volonté et des collègues et de la hiérarchie qui est quelqu'un qui se stabilise un peu parce que pour les personnes accompagnées, que ça change tous les mois, tous les deux mois, enfin, c'est compliqué. Donc, voilà, une petite pression, mais je tombe sur une équipe vraiment super, très solidaire, très bienveillante. Pareil au niveau de la hiérarchie et ça fait tout. Enfin, ça aide à sécuriser et puis à s'investir de façon sereine dans le travail.
Ok. Les choses que tu as trouvées les plus satisfaisantes sur ce premier poste, toi, professionnellement?
C'est le bout. Alors, ce qui est satisfaisant, c'est d'arriver voilà, déjà au bout, de faire le travail qu'on a choisi de faire. Je pense que ça a été la première satisfaction de me dire « Ah, ça y est, on y est ». Et voilà, la satisfaction, elle est au quotidien, bah, dans le fait de rencontrer des personnes, d'être dans l'échange. Enfin, c'est vraiment les choses pour lesquelles j'ai voulu faire ce travail. Donc, la satisfaction, elle est là en priorité.
Et les choses les plus difficiles, que vous n'avez peut-être pas anticipées sur mon premier poste?
Alors, les plus difficiles, je sais pas, les plus déstabilisantes, c'est la violence à laquelle on est confronté de par parfois les personnes qu'on accompagne qui peuvent être mécontentes, alors pas forcément de nous, mais des services en général. Et qui est accentué par le fait qu'en fait on est un peu devenu guichet unique parfois, où il y a beaucoup d'institutions qui votent un peu en touche, qui ont réduit leur plage d'accueil, sinon il faut un rendez-vous, il faut le prendre deux mois avant, il faut se déplacer. Et comme nous, on a, voilà, c'est une demande aussi de l'institution, et ça a du sens, on a des plages d'urgence, on ne doit pas blinder nos journées pour faire face à, voilà, à d'éventuelles urgences et tout. On reçoit ces publics et en fait on se prend la violence qu'ils ont contre toutes les institutions, nous, parce que c'est nous qui sommes le plus accessibles. Et ça a été peut-être la chose la plus difficile à gérer parce que, voilà, dans les publics accompagnés à ce moment-là, bah, y a des personnes qui ont des problèmes psychiatriques. Donc, voilà, il peut y avoir des fois des situations pas très bien stabilisées avec des petits pétages de plomb et puis beaucoup de violence quand il y a des personnes qui ont des droits qui sont pas débloqués, enfin qu'il y a des blocages en fait au niveau d'autres institutions et puis bah au bout d'un moment ça pète et c'est nous qui nous prenons la violence, les menaces. Donc ça a été peut-être ça ouais
le plus difficile,
le plus déstabilisant ouais, un peu au début.
Où on se dit, mais non, mais moi, je suis pas là pour ça, c'est en ça. Fait.
Oui, mais ça fait partie du...
Mais ça fait partie du package.
Du package,
effectivement. Je reviens sur ce que tu disais tout de suite, quand tu dis c'est la satisfaction, c'est d'arriver au bout. Est-ce que tu as envisagé d'accéder à un autre poste avec ton master que celui d'assistante sociale?
Non, parce que le master, je l'ai fait plus dans une optique à long terme. Donc, dans l'immédiat, j'avais pas d'autres postes en vue. Et puis, voilà, même pendant le master, à découvrir d'autres métiers, d'autres professions, je suis vraiment restée sur la motivation et l'envie que j'avais d'être assistante sociale. Enfin, ça a pas interféré par rapport à ça. Donc.
Ok, d'accord. Ensuite, du coup, tu continues combien de temps, là, ce remplacement
Alors, quelques mois, 4-5 mois. Et ouais, au bout de 4-5 mois, la hiérarchie me propose un autre poste. En fait, il développe le programme de réinstallation donc en partenariat avec une agence immobilière à vocation sociale.
Okay.
Donc en fait, c'est l'agence immobilière qui porte le projet. En fait, dans le programme de réinstallation, il y a un accompagnement social qui doit être fait. Enfin, ce programme de réinstallation, c'est assez vague. En fait, l'idée, c'est d'accueillir des familles ou des personnes qui ont dû fuir leur pays à cause de la guerre. Donc, par exemple, des personnes de Syrie, de Centrafrique, du Soudan. En fait, c'est des pays qui sont en guerre depuis plusieurs années, donc souvent il y a beaucoup de populations qui se sont déplacées dans des pays aux alentours, comme la Turquie, la Jordanie, l'Égypte. Et le but du programme de réinstallation, c'est un peu de soulager ces pays de premier accueil. En prenant en charge et en accueillant des familles. Donc nous, c'est un programme qui a qui est européen en fait. Il y a plein de pays qui en font partie et même au-delà de l'Europe, le Canada. Enfin, il y a plein de pays qui prennent part à ce programme. Et du coup, en fait, l'endroit où je travaillais devait se charger de l'accompagnement social. Et l'agence immobilière devait se charger de trouver un hébergement pour que ces familles puissent arriver. Et c'était un projet qui démarrait. Donc on m'a proposé de postuler sur ce poste. Et moi j'étais super partante parce que alors déjà ça faisait un peu écho par rapport au public ou à la situation de migration, à ce que j'avais pu travailler pendant mes études à l'IRTES. Ça faisait le lien aussi avec mon master sur le travail avec les jeunes, sur la médiation, parce que c'est des choses qu'on sollicite beaucoup avec ce public. Et puis, ça me permettait aussi d'avoir un contrat un peu plus stable et de se projeter un peu plus facilement.
Tout était réuni pour que ça matche, en fait. C'est clair que c'est toujours hyper stimulant d'être au départ d'un projet.
Ah, mais ouais.
Donc là, vous êtes combien sur ce projet à travailler?
En fait, à la base, je suis... Enfin, il y a mon chef et moi.
Ok.
Et voilà. Et non, c'est sûr, c'est ultra stimulant. Enfin, c'est génial parce qu'on a un cahier des charges à respecter, mais... En même temps, on a quand même une certaine marge de manœuvre pour façonner un peu les choses à notre façon. En fait, ça a été vraiment pour moi hyper épanouissant parce qu'il y avait tout à créer, tout à construire. Et j'avais toute l'autonomie que je voulais par rapport à ça. Enfin, en référant toujours à mon supérieur, mais j'avais quand même la possibilité de faire pas mal de choses. Et ça, c'est super. Enfin,
est-ce que dans les pas mal de choses, parce que du coup, les auditeurs n'ont pas ton sourire, mais moi, je l'ai en face de moi, est-ce que je dois entendre et comprendre, est-ce que j'avais la liberté de pouvoir un peu dépasser le cadre tout en respectant le cadre institutionnel, mais en tout cas pour accueillir correctement ces personnes? Parce que si tu te cantonnes au cahier des charges, peut-être que toi, pour toi, en tout cas, c'était pas un accueil suffisamment respectueux, contenant, etc.
Bien sûr, oui, c'est là tout l'intérêt, effectivement, c'est qu'on a des choses à faire qui sont assez vagues et qui sont pas du tout tournées vers l'humain. Enfin voilà, c'est des choses très concrètes à respecter, dans quel champ on intervient, jusqu'où on peut aller. Enfin, et après, bah, il faut rendre tout ça humain, on va dire. Et c'est vraiment voilà, ça a été vraiment ça qui m'a attirée et qui m'a épanouie aussi parce qu'il y avait tout à faire et dans ce sens-là, j'avais vraiment une marge de manœuvre assez intéressante. On a travaillé avec des bénévoles aussi qui nous aidaient sur certains points, bah, parce que eux étaient vraiment aussi centrés sur bien accueillir, accueillir oui, mais bien accueillir.
Ok.
Et ça a été super parce que ça a été des moments hyper riches en émotions, hyper enrichissants. Enfin, pour moi professionnellement, mais aussi pour moi personnellement.
Oui, bien sûr. Tu vas nous en dire un peu plus du coup sur le programme de réinstallation, c'est comme ça qu'on dit. Alors je veux pas critiquer pour critiquer, c'est pas très beau de dire qu'on
Non.
réinstalle les gens. Il y a une idée de renouveau peut-être avec le, mais ouais, je sais pas. Du coup, tu peux nous expliquer comment ils passent d'un pays, de leur pays ou d'un pays dans lequel ils ont été accueillis temporairement à ici, enfin.
Alors c'est en plus très administratif, hein, il y a très peu de personnes déplacées de leur pays d'origine qui profitent de ce programme, hein. Je crois qu'on est sur moins de 1% des populations déplacées, donc c'est vraiment une goutte d'eau. En fait, donc les familles, bah, partent de leur pays à cause de guerre, bien souvent, trouvent refuge donc dans un pays tiers. Et bah, par exemple, la Turquie, c'est un pays qui accueille énormément de personnes syriennes. Et à long terme, elles peuvent pas toutes se stabiliser dans ce pays parce qu'elles sont, voilà, elles ont pris une grande place dans la société. Donc en fait, il y a divers organismes qui en fait regroupent un petit peu les familles, enfin qui essaient de suivre quelle famille est présente, enfin de lister un peu, on est sur
Sorte
quelque
de
chose de très
recensement, du
administratif.
coup, ok.
Exactement. Et en fait, en fonction des profils des familles, ces organismes vont regarder s'ils peuvent faire partie du programme de réinstallation. Donc nous, pour la France, sont fléchés des personnes avec des critères de vulnérabilité. Donc on a eu voilà, des familles qui avaient une histoire de vie particulièrement difficile avec des enfants qui étaient décédés, des familles qui avaient été éclatées où les frères et sœurs avaient été en fait dans la fuite séparés, des enfants qui avaient des maladies. Qui nécessitait une opération chirurgicale qui pouvait pas être faite dans le pays tiers dans lequel il se trouvait. Voilà, c'est des critères en fait qui étaient préétablis et en fonction bah, des familles, certains étaient sur cette liste ou pas.
Ok.
Voilà, donc c'est pas évident parce que quand on part de son pays pour une guerre ou les profils qu'on peut accompagner, tout le monde souffre d'une façon différente. Enfin, toutes les histoires sont plus horribles les unes que les autres. Donc, j'imagine que ça doit pas être évident
Non, c'est clair.
de sélectionner. Mais en fait, ça se passe comme ça. Donc, l'organisme sélectionne et ensuite les services de l'OFPRA, donc c'est l'instance en France qui gère toutes les demandes d'asile, qui les étudie, se déplace en fait dans ces pays tiers. Et vont étudier en gros les demandes d'asile directement sur
D'accord.
place, font les interviews avec les personnes, bah, comme elles font lorsqu'une personne vient en France et demande l'asile en France. En fait, elles
OK.
font la même chose, mais dans le pays tiers. Et bah, elles décident d'attribuer, alors souvent, comme c'est des gens qui ont été présélectionnés, elles décident d'attribuer bah, le statut de réfugié ou la qualité de la protection subsidiaire. Et de là, bah, tout un enchaînement de procédures se met en place. Donc les personnes se voient délivrer des laissez-passer, grâce auxquels elles vont pouvoir arriver en France. Enfin, je parle pour la France, mais ça fonctionne à peu près de la même façon pour d'autres pays, en Allemagne, en Suède. Donc, les personnes arrivent en France. Donc nous, en amont, bah, il y a tout le travail, de capter les logements, donc qui était fait par l'agence immobilière à vocation sociale. Dans le cahier des charges, on doit accueillir ces familles avec donc dans un logement. Elles vont pouvoir en bénéficier après en qualité de locataire par un système de bail glissant. Et les logements doivent être équipés de façon standard, avec les choses nécessaires pour vivre, voilà, gazinière, table, lit, avec un minimum de confort. Donc nous, l'avantage, c'est qu'on travaillait avec une association aussi qui avait à cœur de bien accueillir et du coup qui faisait un peu plus que ça, qui récoltait beaucoup de matériel, qui permettait de personnaliser un petit peu tout ça et de rendre les choses un peu chaleureuses. Et puis nous, dans la mesure du possible, c'était aussi ce qu'on essayait de faire. Enfin, dans la mesure du possible, c'était possible, mais autant que possible, parce qu'il y a une limite à un moment. Et en fait, moi, mon travail commençait pour la majorité des familles à l'arrivée à l'aéroport. Donc, les familles quittaient l'Égypte, la Turquie, la Jordanie. Et le plus souvent, ça s'est pas toujours passé comme ça, mais le plus souvent, on allait les chercher à l'aéroport directement à leur arrivée.
D'accord.
Donc, c'est des moments très particuliers.
Ouais, c'est ça. tu les attends devant le terminal et puis
une petite affiche
une petite affiche avec leur nom écrit dessus
puis les logos des autorités françaises et tout pour qu'on soit repérable par rapport aux douanes s'il y a des difficultés et puis en fait le premier jour, le premier accueil de famille qu'on a fait, j'ai une collègue aussi qui est arrivée ce jour-là, donc elle a été mise dans le bain direct parce que moi je travaillais sur la mise en place depuis quelques semaines, donc j'avais eu le temps de préparer un peu les choses, mais elle a commencé le jour J. Et donc c'était donc une collègue qui était embauchée en tant que travailleur pair en fait par le biais d'un contrat aidé.
Ok.
Et qui nous a aidés pendant plusieurs mois sur tout l'aspect traduction, qui était hyper important parce que les familles, on va les chercher à leur arrivée en France. Elles parlent pas français du tout, elles parlent souvent pas anglais non plus. Tout est différent, la culture, même dans l'aéroport, les familles, des fois, on les attend un certain temps parce que ça faut sortir de l'aéroport,
c'est pas si simple.
Donc non, c'était surtout l'aspect de traduction et culturel aussi, parce que c'était une collègue d'origine syrienne et ça a été hyper facilitateur, c'était super, on travaillait en binôme et ça a été une super expérience.
Qu'est-ce qu'elle permettait d'autre, de différent, selon toi ?
Alors, vraiment sur l'aspect culturel, je trouve que ça a été vraiment hyper intéressant parce que la difficulté de pas se comprendre par la langue, on va essayer de regarder plus des choses au niveau non verbal, des sourires, des façons de faire et tout. Et en fait, même ça, c'est pas toujours hyper fiable parce que nous, quand on le fait au quotidien, quand on analyse des situations au quotidien, on associe le verbal et le non-verbal. Et en fait, quand l'un manque, l'autre est quand même plus difficile à analyser. Je me suis retrouvée parfois en face d'un père, justement, une fois qui était très zen, très détendu, qui souriait, et j'avais l'impression qu'il disait un truc hyper positif et tout. Puis en fait, quand ma collègue me traduit, il était en train de dire des mots très durs sur un de ses enfants, mais physiquement, ça ressortait pas du tout. Et ça a été hyper intéressant pour ça. Et pour comprendre vraiment au niveau culturel tout ce qui peut se jouer, toutes les difficultés auxquelles on n'a pas pensé, pour le quotidien des gens, toutes les choses qui nous paraissent normales à nous, qui avons vécu en France toute notre vie, qui sommes nés ici, mais pour des personnes qui débarquent et qui connaissent pas du tout notre système, c'est compliqué.
Est-ce que du coup, avec ta collègue qui était travailleur pair, est-ce que tu avais l'impression que les personnes avaient des repères, sans mauvais jeu de mots, plus facilement, en tout cas,
oui,
plus aisément arriver à s'acclimater, en tout cas.
Ouais. Carrément, sa présence était très rassurante pour les familles qui pouvaient s'exprimer dans leur langue maternelle. Et ça, c'est précieux de pouvoir faire ça. Et je trouve que, Il y a des familles dans le cadre de ce programme qui ont pu bénéficier de sa présence pendant toute la durée du programme, et il y en a d'autres qui sont arrivées plus tard parce que les arrivées se faisaient de façon progressive, qui en ont moins bénéficié. Alors après, il y a ces personnes dépendantes aussi, mais je trouve que les personnes qui ont bénéficié de sa présence dès le début se sont beaucoup plus vite acclimatées, et même au niveau du français, ont appris beaucoup plus vite le français parce que il y avait cette transition où ils pouvaient exprimer les choses dans leur langue maternelle. On pouvait expliquer les choses dans leur langue maternelle. Ils avaient le temps d'assimiler, d'appréhender les choses et après de passer sur le français. Et en fait, pour les familles qui ont moins eu ça, où on était direct sur expliquer un peu les choses en français, à utiliser des outils un peu moins, pas toujours adaptés, je trouve que le passage a été beaucoup plus difficile. Et voilà, elle a vraiment permis de faire la liaison entre ce qu'ils connaissaient, mm-hmm. entre leur vie d'avant, leur code d'avant, leur langue, et puis comment transposer ça un peu en France et comment se sentir bien.
Trouver un sens aussi à leur vie en France.
C'est ça.
Ok, est-ce que tu as des petits exemples de situations que tu as gardées en tête qui étaient un petit peu marquantes sur ce service ?
Tous les jours, il y avait c'est hyper riche parce qu'on rencontre des personnes qui ont des histoires vraiment pas évidentes et le contexte. Tous les jours, il y a des anecdotes, des choses. On n'aurait pas pensé rencontrer cette situation le matin en se levant. Il y en a deux qui m'ont peut-être un peu plus marqué. Une famille qu'on allait chercher en plein mois de janvier à l'aéroport à Lyon. Et la famille, on était 30 janvier, je crois. Et la famille arrive en tongs, plusieurs personnes, quasi tous en tongs. Et une seule personne avait des baskets, enfin des chaussures fermées. Et puis ils étaient tous en boubou africain ou en débardeur, enfin des habits pas du tout appropriés, et avec des bagages, on va dire une valise sur deux, mais quand je dis une valise pour deux personnes, pardon, mais quand je dis une valise pour deux, c'est pas notre bagage en soute 23 kilos blindé, c'est parfois l'équivalent d'un gros sac à dos, d'un sac de sport. Et c'est particulier parce qu'on est à l'aéroport, donc on voit plein de gens qui partent en vacances, qui reviennent, qui ont des gros chariots remplis de bagages et qui partent 10 jours. Et en fait, on accueille des familles qui ont toute leur vie avec eux, et leur vie, c'est un sac pour deux personnes. Et ça a été des moments, hyper émouvants, mais...
Dur.
Ouais, dur. Ouais, vraiment pas évident. L'autre anecdote que j'ai, c'est par rapport à notre travail de travailleur social. En fait, dans les familles que j'accompagnais, il y a beaucoup de familles qui sont éclatées, où il y a des frères et sœurs qui sont encore dans le pays d'origine, d'autres qui en sont partis mais qui sont dans un pays tiers, des familles qui sont déjà réinstallées au Canada. Enfin, c'est des familles qui sont globalement éclatées. Et c'est pas rare que quand on fait un entretien, en fait, le téléphone sonne, et que ce soit le père, l'enfant, le frère qui appelle. Et en fait, plusieurs fois, je me suis fait la réflexion. Donc, les personnes répondent, parce que sinon, le téléphone va sonner, en fait, 30 fois de suite. Donc, les personnes gênées répondent pendant l'entretien et disent quelque chose dans leur langue maternelle qui doit ressembler à « je peux pas te répondre, je te rappelle après, je suis avec ». Et cette phrase-là, je ne comprenais pas, mais toujours le mot social ou assistant social ou personne sociale en français. Et du coup, je me disais, pourquoi le mot français ? Et au bout d'un moment, en fait, en demandant aux personnes, on m'a répondu, et ça a été pareil, un moment particulier. Mais assistant social, moi, connais pas. Moi, connais armée, moi, connais police, moi, connais, des militaires. Mais docteur, un peu. Travailleur social,
pas du tout.
Et c'est là où je me dis,
dans sa langue, peut-être pas d'autres mots pour le
c'est
dire.
C'est ça.
Quoi.
En fait, c'est ça. Il y a des personnes qui disent, moi, dans ma langue maternelle, il n'y a pas de traduction pour ça. Ça n'existe pas.
Ok. Mais du coup, toi, tu leur expliquais que tu étais là pour les aider sur le logement, sur les démarches papiers, etc.
Ouais.
Okay.
Ouais, c'était hyper polyvalent parce que dans le cadre de ce programme, vraiment, j'intervenais sur tout. Enfin, ouais, le logement, tout ce qui était inscription à l'école, accès à la santé, pour les, voilà, pour les plus grands, tout ce qui est l'apprentissage de la langue, l'insertion pro. Enfin, et puis les choses auxquelles on pense pas. Ben, nous, toutes les familles qu'on a eues, je crois qu'il y en avait aucune qui avait déjà eu un compte en banque. En France, on ne peut pas passer à travers ça. On est obligé d'en avoir un maintenant. Donc, voilà, aller à la banque, ouvrir un compte, avoir une carte bancaire. Enfin, ça, ça a été pareil. Un apprentissage hyper, hyper long. Comment on retire, comment on paye, comment on fait un virement. Enfin, des choses.
Et puis, dans un logement, j'imagine que c'est pareil. En fait, il y a peut-être des personnes qui n'ont jamais habité au sens où nous, on le met à habiter dans un logement, un immeuble, enfin, avec des voisins en utilisant, je sais pas si t'as des retours sur ça.
Oui, alors, on s'attendait à effectivement des situations vraiment à l'extrême parce que c'est les retours qu'on avait sur d'autres territoires qu'accueillaient les personnes comme nous. Nous, on n'a pas rencontré vraiment de gens qui avaient de gros décalages.
D'accord.
Mais par contre, oui, des gens qui avaient vécu, enfin, qui vivaient depuis plusieurs années, bah, dans des camps de réfugiés, enfin, ou dans des, voilà, dans des tentes, dans des caves, où ils vivaient à 6-7 dans une pièce ou deux pièces. Enfin, voilà, ça devait faire 35 mètres carrés. Alors, voilà, on était, voilà, sur des gens qui avaient quand même, qui vivaient dans des conditions très précaires, voilà, depuis plusieurs années. Donc, c'est sûr que,
oui, passer de décalage. Ça à un logement que vous aviez investi de façon chaleureuse.
Ouais.
Ouais, le décalage peut être compliqué, même de vivre seul peut être compliqué, j'imagine.
C'est sûr. Après, nous, dans le cadre de ce programme, toutes les familles qu'on a, enfin, oui, tous les ménages qu'on a accueillis étaient des familles, donc voilà, au moins 4-5 personnes.
Je n'étais pas tout à fait seule, mais, ouais, mais seule en famille, quoi.
Seule en famille, voilà, mais c'est sûr que c'est. Par rapport à d'autres personnes en situation de migration, pardon, qu'on a pu accueillir par d'autres biais, le fait d'être en famille était souvent quand même facilitateur dans le fait de s'intégrer et d'être bien en France parce que, voilà, les personnes qui arrivent en France seules et qui ont leur famille qui est éclatée, enfin, leurs enfants, leur mari, leur femme, qui sont pas avec eux, ouais, c'est encore, ça rajoute des fois une difficulté, ouais.
Ok, je crois qu'à ce, en préparant le podcast, on s'est dit que tu avais un deuxième service qui était venu s'ajouter à ce service-là. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots?
Oui, en fait, bah, le programme de réinstallation par rapport au partenariat qu'on avait, on devait accueillir un certain nombre de familles. C'était prévu, enfin, en amont. Et du coup, bah, au fur et à mesure que les familles arrivaient, enfin, étaient arrivées plutôt. Voilà, j'ai commencé à avoir à anticiper une petite baisse du coup dans les accompagnements que j'avais et du coup j'ai commencé à m'investir sur la VDL pour les personnes réfugiées, donc c'est l'accompagnement vers et dans le logement.
Okay.
C'est une mesure sur le territoire où j'exerçais qui existait déjà pour des personnes de droit commun, on va dire. Mais il y avait une volonté des services de l'État de spécialiser une mesure par rapport vraiment à ce public parce que voilà, sur le territoire, on avait eu un afflux assez récent. Nous, on était sur un territoire rural, donc c'est vrai qu'en premier, quand il y a eu des personnes en situation de migration qui sont arrivées, c'est beaucoup les villes qui ont accueilli. Et nous, on a été un peu plus tard voilà, sollicités. Donc il y avait voilà cette volonté de vraiment spécialiser la mesure pour accompagner, enfin maximiser un peu l'accompagnement vers ce public qui est très demandeur d'accompagnement et pour lequel voilà les solutions à ce moment-là pouvaient être insuffisantes, on va dire.
Ça dure combien de temps du coup une mesure à VDL?
Alors on était sur maximum un an. Voilà, on pouvait demander déjà 3 mois, 6 mois et c'était renouvelable en fonction de la situation, mais normalement maximum un an. Voilà, on était du coup sur une mesure où on accompagnait soit des personnes qui accédaient pour la première fois à un logement autonome en France, donc où, okay. Voilà, on sécurisait un petit peu l'entrée dans les lieux et puis tout ce qui pouvait y avoir autour. Et sinon, ça pouvait être aussi plus pour une question de maintien dans le logement, donc des gens qui habitaient déjà dans l'appartement, mais qui avaient une dette locative ou qui avaient des problèmes dans l'occupation du logement, où il pouvait y avoir du bruit, beaucoup de consommation, et puis que ça crée voilà, dans l'immeuble des problèmes. Donc voilà, c'était les deux principaux motifs d'accompagnement. Mais encore une fois, c'était très large. Le but, c'était aussi vraiment de maximiser l'accompagnement. Et du coup, mon intervention n'était pas uniquement sur le logement et le budget. C'était voilà, l'insertion, l'intégration, tout ce qui était santé. Enfin, voilà, c'était encore très global.
Ouais, c'était polyvalent, mais spécifique par le profil des personnes.
Ouais, c'est ça, exactement.
Ok. Est-ce que tu as une ou plusieurs peut-être situations un peu marquantes que tu aurais rencontrées là, depuis tes études et que tu aimerais un petit peu raconter ici pour que les personnes puissent, qui écoutent en tout cas, puissent se représenter un peu mieux ton travail et par quoi tu es passée.
Alors, si ça répond à la question, moi, j'ai vraiment eu du mal parfois parce que dans le cadre de la formation, on nous apprend beaucoup à prendre de la distance, à prendre du recul, à pas s'impliquer, enfin, rester objectif.
La bonne
et
distance.
Et voilà, c'est ça. Et effectivement, il faut rester dans le cadre. Il faut qu'il y ait un minimum de garde-fous autour de nous. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui pouvait me mettre en difficulté parce que il y a des gens, et encore plus avec ce public, qui méconnaît notre travail et qui parfois le découvre par notre biais.
Tu parles des réfugiés, du coup ?
Ouais, c'est okay. Ça. Si on reste sur des choses très, très à distance, très épurées, on rentre pas dans la relation, on n'arrive pas à avoir la confiance des gens et sans ça, on reste un peu bloqué. Moi, au début, ça a été quelque chose d'assez compliqué parce qu'on ne sait pas trop jusqu'où on peut aller. Et moi, sur les missions là, dont j'ai parlé, j'étais toute seule à intervenir. Donc, même s'il y avait les collègues, même s'il y avait l'analyse de la pratique, je n'avais pas les mêmes missions, pas la même approche, pas les mêmes modes d'intervention que mes collègues. Et du coup, voilà, c'était difficile de comparer un petit peu. Et en fait, pour moi en tout cas, ça s'est passé comme ça à ce moment-là. Pour certains, on est obligé de sortir un peu des sentiers battus et de trouver des façons d'accompagner différentes parce que sinon, on n'arrive pas à capter les gens et on bloque. Et voilà, dans les situations comme ça, qui au début pouvaient me mettre un peu en difficulté, c'était des gens qu'on n'arrivait pas à capter, où on donne des rendez-vous, ils viennent pas, on appelle, ils viennent pas, ils viennent avec 40 minutes de retard, ou ils te disent j'arrive, en fait, tu penses qu'ils sont devant la porte, mais en fait non, ils n'arrivent jamais.
Peut-être qu'ils sont jamais partis, mais ça. Qu'ils n'ont pas compris. Ouais.
Donc non, il y avait... Voilà, toutes ces difficultés-là, et puis moi, le questionnement de savoir jusqu'où je peux aller, qu'est-ce que je peux faire de différent pour réussir à ce qu'il y ait une relation qui se crée avec les gens et qu'on puisse faire un peu bouger les choses. Et ouais, c'est ce qui s'est passé avec un jeune que j'accompagnais, c'est toujours ça, il venait pas, il annulait, il me disait j'arrive, il était pas là, et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, j'ai commencé depuis plusieurs semaines et on bloque, il se passe rien, enfin, il n'y a pas d'intérêt pour lui à ce que ça continue. Et puis, en fait, quand on prend les choses différemment, qu'on va chez les gens, qu'on essaie de faire des choses, alors ça va être parfois aller boire un café avec la personne, ça va être l'accompagner, faire ses courses parce qu'il est en galère sur quelque chose. Ça va être des biais un peu qu'on va trouver, on va contourner un petit peu, jouer un petit peu avec les différentes règles, les différentes commandes institutionnelles et voilà, et rester dans un cadre quand même. On le fait pas le samedi à 18h.
C'est une question de cadre institutionnel, quand même, du respect, ouais, du cadre, mais trouver l'accroche.
Ouais, c'est ça.
Donc, et du coup, t'as trouvé l'accroche avec lui?
Ouais, avec lui, du coup, ça on a fini par la trouver. Mais c'est important de toujours après en concertation, bien sûr, avec la hiérarchie, avec les collègues, de pas s'isoler, mais je trouve que c'est, on a la latitude pour le faire, on a des métiers où on a quand même globalement une certaine marge de manœuvre, et c'est bien d'essayer d'en profiter et de jouer un peu de ça.
Ouais, on serait pas travailleur social sinon.
Non.
Ok, j'ai une petite question avant qu'on passe sur les trois questions de la fin. Est-ce que tes différentes expériences, à un moment donné, ont eu peut-être un impact sur ta vie personnelle, voilà, est-ce que positif ou négatif, hein, c'est pas péjoratif comme terme impact, mais voilà, est-ce que...
Bah oui, les deux, je dirais impact négatif, hein, dans le sens où tu le dis quand tu présentes le podcast au tout début, le social, ça a pas la cote, les personnes en situation de migration encore moins. Et c'est vrai que quand on dit qu'on travaille avec ce public, voilà, dans la vie de tous les jours, bon, on n'a pas toujours les meilleurs accueils possibles. Donc c'est vrai que c'est un peu déstabilisant, parce que moi j'adorais voilà travailler avec ce public. Enfin, c'était vraiment hyper épanouissant pour moi. Je trouvais ça hyper riche, et du coup de voir la tête des gens des fois quand on parle de ça, tu te dis ouais, c'est pas très engageant. Donc sur ce volet, c'était un peu compliqué, mais pour moi personnellement hyper positif, parce que voilà, on revient vraiment à des bases de on est des êtres humains, on mérite tous la même chose, la sécurité, de pouvoir aller à l'école, de pouvoir sortir dans la rue, de pouvoir vivre la vie que l'on souhaite vivre. Et du coup, voilà, pour moi personnellement, ça m'a vraiment permis de revenir à des choses comme ça, et ouais, à vraiment prendre en compte l'humain, enfin
la personne. Ouais. Ok, bon. Merci Amélie. Les trois petites questions de la fin, enfin qui sont souvent quand même assez conséquentes en fait, c'est pas des trois petites questions. Si tu avais la fameuse baguette magique, qu'est-ce que tu ferais ?
Alors, sans hésitation, plus de médecins, enfin, voilà, dans tous les champs, tout ce qui est médecine générale, dentiste, enfin tout le champ de la psychiatrie, c'est vraiment, je trouve le point, enfin un peu la bête noire, enfin, parce qu'on en manque cruellement, et que c'est souvent sur ça où on a des blocages, et donc ouais, sans hésitation.
Tu ferais full sur le corps médical.
Sur la santé, ok. Ouais.
Non mais oui, c'est vrai, t'as raison. On peut parfois se confronter juste à des listes d'attente interminables, des mois d'attente, des délais d'attente avant d'avoir un premier rendez-vous. Et sur des situations que nous, finalement, on a en face au quotidien, ben oui, on aimerait que ça aille un peu plus vite.
Ah parfois. Oui, c'est ça, quand on a des personnes voilà, qu'on aurait besoin d'aide sur un volet psychiatrique, c'est déjà hyper compliqué de les amener sur du soin. Enfin, qu'ils soient d'accord pour appeler le centre de soins. Et quand on appelle et qu'on nous annonce 8 mois d'attente, et qu'en fait, au bout des 8 mois, on annule le rendez-vous parce que finalement, en fait, le praticien est arrivé mais reparti. Enfin, c'est un échec.
C'est un échec,
dès le début.
Et puis tout à l'heure, je t'ai demandé ton délai de prise en charge, en tout cas la durée des mesures que tu avais sur la VDL, c'était 3 mois, 6 mois. Donc c'est quand même très très court.
Bien sûr.
En fait, ça peut se renouveler jusqu'à un an, mais un an d'accompagnement, c'est très court aussi.
C'est très court. Et là, pour voilà, dans le cas du programme de réinstallation, sur des familles qui arrivent en France, qui méconnaissent tout.
C'était combien de temps du coup?
Un an d'accompagnement. Voilà, il faut enfin on doit travailler à l'autonomie des personnes, mais quand il y a déjà la barrière de la langue, ça met un certain temps. On peut pas demander aux gens, et il y en a qui apprennent pourtant très vite, mais on peut pas leur demander d'être bilingue au bout de 6 mois, et comme ça nous laisse encore 6 mois pour qu'ils prennent en autonomie. Enfin voilà, ça passe hyper vite. En même temps, je trouve, par rapport moi aux moyens que j'avais, au nombre de situations que j'avais quand même les moyens de faire bien mon travail. C'est rare, faut le dire.
Mais, c'est important de souligner.
Ouais, il n'y avait pas de frustration de ce côté-là, parce que si je devais voir une famille 3 fois par semaine parce qu'il y avait des gros besoins, et ben je les voyais 3 fois par semaine, j'avais le temps, j'avais la possibilité. Et c'est important de le souligner, parce que c'est plaisant. Alors pour nous, c'est sûr, de pas courir après le temps et de pouvoir faire les choses bien. Et c'est, enfin, ce qui est idéal, c'est pour les familles parce qu'elles nous sollicitent, parce qu'elles voient que les choses avancent, parce qu'on a le temps de parler avec elles, de les rencontrer, de les accompagner, et que c'est ce dont elles ont besoin. Enfin, c'est ce qu'elles expriment en tout cas.
Oui, c'est la seule ressource qu'elles ont au début. Donc effectivement, il faut de la disponibilité pour aller à la rencontre. Ok. Si tu avais envie de faire autre chose, ce serait quoi ?
Eh ben rien d'autre. Non, ma vie personnelle m'a amenée à déménager à quelques milliers de kilomètres. Donc voilà, j'ai dû changer, arrêter ce que je faisais et puis réfléchir à ce que je voulais faire, si je voulais continuer dans le social ou faire autre chose. Bon, par nécessité, j'ai fait autre chose pour le moment, mais ça m'aide de tous les jours à me dire que le travail que je veux faire, c'est celui d'assistante sociale.
Ça te repousse vers la profession. Eh ben, on te souhaite de trouver rapidement, du coup. L'invité précédent, du coup, t'as posé une question, et pas des moindres. T'auras le droit de poser une question après à l'invité précédent, l'invité prochain. Oui, voilà, faut peut-être le prendre comme ça, je sais pas, parce que la question que tu as serait digne d'une disserte 3 heures. Est-ce que tu as une ou plusieurs idées qui permettraient aux travailleurs sociaux d'avoir plus de reconnaissance ?
Ok. Oui, vaste question, c'est effectivement un peu le... Une des questions qui revient, je pense, le plus souvent dans notre domaine en ce moment. C'est clair qu'on manque de visibilité, je trouve, clairement. Et c'est là aussi l'intérêt, je pense, de ton podcast, qu'on puisse entendre un petit peu notre quotidien, ce qu'on fait, à quoi on sert, un peu plus, de façon un peu plus large que simplement entre nous. Donc, de la communication, je trouve que c'est des métiers qui sont vraiment méconnus, même dans, tous les forums pour les lycéens, c'est des métiers c'est pas un métier que j'ai découvert comme ça, donc je pense pour plus de reconnaissance, ce serait déjà que tout le monde puisse mieux connaître notre travail, et peut-être que... On sait qu'en ce moment, c'est assez difficile en France de recruter des travailleurs sociaux, qu'il y a une espèce de crise de vocation, si on peut dire ça comme ça. Donc peut-être que le fait de galérer pour les recruteurs à trouver de nouveaux travailleurs sociaux, ça va peut-être mettre en lumière le fait qu'on a un travail quand même qui est important, qui est fait complètement en off, qui est très peu médiatisé, et ça va peut-être, j'espère en tout cas, je pense que c'est une des possibilités que la rareté des profils permette de voir que c'est des métiers indispensables et
qu'on les rende plus attrayants.
Ouais, c'est ça, plus attrayants, plus attractifs, et je trouve, on a l'image du social, il n'y a pas de moyens, c'est la galère, on a des choses négatives alors que c'est...
Pas que ça.
C'est pas que ça, c'est surtout pas ça. Il y a un petit peu, mais il y a possibilité de beaucoup de choses positives. Donc,
Bien sûr. Ok, voilà. Merci pour cette réponse qui est quand même très complète dans le temps en partie. Allez, venge-toi, pose ta question au futur invité.
Alors moi, j'avais pas de... Je vais même pas me venger, du coup. Non, je me disais peut-être plutôt une anecdote sur quelque chose qui arrivait dans le travail social, une situation rencontrée, une anecdote drôle ou émouvante, quelque chose qui reflète un peu le travail.
Okay.
Voilà, c'est ce que je pourrais demander à ton prochain invité.
Eh ben écoute, c'est noté. Je te remercie beaucoup en tout cas pour cet échange et pour la transparence que tu as eue sur le dernier poste que tu as occupé, en tout cas avec les personnes réinstallées et réfugiées, et sur la définition que tu as du travail social et du contour que tu mets dans ton accompagnement. J'espère en tout cas que ça pourra donner un petit peu de billes peut-être aux futurs professionnels qui vont un jour être d'être voilà, diplômé et de se dire qu'il y a le cadre, mais il y a aussi un petit peu d'adaptation du cadre tout en respectant l'institution. Merci beaucoup, Amélie.
Merci, Camille.
À bientôt.
You are wrong. Because what you defend is a gift in your hand. You just have to be proud, say it clear and loud. Because what you defend is a gift in your hand. Just have to be proud, say it clear and loud. Invisible voice for unstoppable choice.